France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Un W, un X et un A, seulement trois lettres, dont deux rapportent beaucoup, hein, surtout si c'est sur un mot compte triple, le wax, est valide au Scrabble. Mais attention à ce que vous allez dire quand votre adversaire va vous demander mais de quoi il s'agit. Si pour vous le wax, c'est ce qu'on met sur la planche pour ne pas glisser, vous êtes surfeur, mais le mot n'est pas valide parce qu'il existe un mot en français, c'est la cire tout simplement. Si vous expliquez que wax, ça signifie parler, c'est que vous maîtrisez le Wolof. Mais bon, les mots étrangers ne sont pas valides au Scrabble. Alors vous pouvez annoncer fièrement que la wax est un concentré de cannabis consommé avec une vapoteuse. Mais alors là, faut pas jouer en famille. Non, le mieux est de placer le mot au masculin, le wax, pour une définition chatoyante et textile. Car de toutes les matières, c'est le wax qu'on préfère.
Vous avez plusieurs noms, plusieurs modèles. Et là, vous avez des wax hollandais, vous avez Génito.
Le wax, c'est un tissu qui a été créé en Europe pour le marché africain.
Ça, c'est Fleur des Paradis, c'est le super wax. Ici, vous avez Ascaris, là, vous avez Rugby, Cravate de Chirac, ici, vous avez Nœud.
Elle s'habille de boubous de différentes longueurs, qu'elle porte les uns par-dessus les autres. Ils sont tous d'impressions de couleurs et de broderies variées.
C'est très très intéressant d'étudier ces rapports entre l'Europe et l'Afrique à travers le textile et de travailler justement sur l'altérité.
Le wax. Marie Merlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes muséographe au Musée de l'Homme à Paris, commissaire de l'exposition Wax, et Soloba Diakité, bonjour.
Bonjour.
Également commissaire scientifique de l'exposition Wax, historienne de l'art, spécialiste de ce patrimoine si riche textile africain. Vous êtes chargée de cours à l'école du Louvre en histoire des arts de l'Afrique. Bien sûr, aujourd'hui, c'est comme une évidence, hein, quand on dit Wax, on pense tout de suite à l'Afrique. En fait, faut aller beaucoup plus loin pour trouver les origines du Wax. Faut aller de quel côté?
Bah, écoutez, il faut aller du côté de l'Asie, de l'Indonésie. Et remonter au 19e siècle, où tout va se faire, à la fin du 19e siècle, tout va se créer à ce moment-là.
Pourquoi l'Indonésie? Pourquoi Soloba Diakité?
Alors l'Indonésie, déjà il faut remonter au batik. Le batik c'est quoi? Alors le batik c'est un textile javanais. Et batik est un terme aussi javanais qui signifie pointillé, puisque effectivement on va utiliser un stylet qui est muni au bout d'un réservoir dans lequel on va mettre la cire. Et justement, la femme va, avec ce stylet, dessiner le motif qui va être réalisé sur ce coton, à la cire d'abeille ou pâte de riz.
Voilà, on a la technique, hein, Marie Merlin, c'est extrêmement bien dit par Soloba Diakité. Nous avons une cotonnade, un tissu, une pièce de coton. Et la cire, en fait, elle est là, comme on fait une gravure, presque, on pourrait dire, à la cire perdue. C'est à cela que sert la cire, ici?
Oui, c'est ça, du point de vue de la technique. Et c'est vrai que le wax est un tissu qui est associé à l'Afrique, alors qu'il n'est pas natif du continent africain. Ses origines sont effectivement indonésiennes. C'est un tissu qui est assez magique, dont l'histoire est assez magique, parce qu'il est au carrefour de ces trois continents que sont l'Asie, donc l'Afrique et l'Europe, parce que ce sont les manufactures européennes qui ont industrialisé le procédé technique artisanal du batik indonésien durant la seconde moitié du 19e siècle. Donc qui ont industrialisé ce procédé pour créer le wax tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est porté aujourd'hui en Europe, en France ou sur le continent africain.
Ben voilà, merci de poser la complexité de cette histoire et donc sa richesse qui nous fait traverser les continents. Hein, nous l'avons compris, l'Asie, l'Europe, bien sûr, et l'Afrique comme une évidence. C'est ça, cette histoire de wax qui va aujourd'hui nous conduire dans le cours de l'histoire avec un départ asiatique. Soloba Diakité, nous nous trouvons en Indonésie, sur l'île de Java. Donc, j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est une technique traditionnelle pour placer des motifs sur des tissus en coton. Le contexte est important, bien sûr, il y a la colonisation. Les Européens, Hollandais principalement, découvrent en fait ces techniques-là.
Alors, Oui, alors plus précisément, on est au XVIIe, enfin XVIIIe siècle, et des territoires indonésiens sont aux mains, on va dire, de la société commerciale puissante, hein, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Et donc, elle est en contact avec ce textile, hein, qui est quand même une technique de réserve à la cire. Cela veut dire que le motif va apparaître en négatif, et puisque la cire va empêcher le colorant de se diffuser sur des zones prédéfinies. Donc, cette compagnie néerlandaise découvre ces textiles qui sont d'une extrême finesse, de très grande beauté, puisque certains, on peut jusqu'à mettre un an pour réaliser ces motifs. Donc, il y a ce qu'on appelle les batiks tout lisses, donc ils sont réalisés à la main, donc avec parfois des motifs calligraphiques. Et ensuite, il y a aussi, plus tard, hein, au 19e siècle, certains batiks, toujours hein, traditionnels, qui sont réalisés avec des caps, des tampons à lamelles de cuivre. Donc, on découvre cette technique, enfin, l'Occident est en contact avec cette technique, et elle la trouve formidable, et il décide de récupérer la technique et de développer, comme l'a dit Marie, la mécanisation.
La mécanisation avec ici l'importance, et vous avez raison de le rappeler, hein, de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, parce que la colonisation de cette région du monde se fait par une compagnie marchande. La compagnie marchande va vouloir reproduire ce qu'elle découvre en Indonésie. Mais alors, le reproduire où ? Est-ce que l'idée c'est de mécaniser en Indonésie pour avoir une production ou bien de faire la même chose en Europe ? Comment ça se passe ? Marie Merlin ?
Ce sont les Hollandais en fait qui ont mécanisé cette application de cire chaude sur le tissu grâce à une machine qu'ils ont appelée la javanaise qui a été brevetée en 1854. Effectivement, cette mécanisation, en fait cette industrialisation, elle s'est faite en Europe et principalement en Hollande, en Suisse et en Angleterre. Et ces firmes hollandaises ont ensuite souhaité commercialiser leur production industrielle, donc de batik indonésien, à destination de leur colonie à Java. Et c'est toute l'histoire du wax aussi et du succès qu'il a ensuite rencontré en Afrique, c'est que cette première commercialisation en Indonésie n'a pas en fait rencontré le succès escompté et les Européens se sont alors tournés vers leur colonie en Afrique de l'Ouest et là le wax, il y a eu cette rencontre entre ce tissu et le continent africain.
Avec le commerce ici qui est au cœur de notre réflexion autour de la fabrication de ce tissu, le wax, quand les Hollandais décident d'en produire de manière mécanique en Europe, quel est le public visé ? En fait, c'est pour diffuser le wax en Europe ou bien est-ce que c'est pour diffuser le wax en Indonésie pour concurrencer le marché local ?
C'est justement pour le commercialiser en Indonésie. Et là, effectivement, ça ne fonctionne pas très bien parce que les Indonésiens sont extrêmement attachés à leur tradition textile, à leur justement au savoir-faire, enfin tout ce que Soloba a pu développer sur la qualité de ce tissu. Et il y a aussi une histoire de perfection d'un savoir-faire artisanal de teinte par réserve à la cire avec des seaux à batik, avec des pipes à batik on ne retrouve pas forcément dans la mécanisation avec des rouleaux de cuivre d'impression sur coton et qui du coup n'a pas forcément plu aux populations indonésiennes.
Vous êtes poli en disant ça, mais j'imagine bien ces populations indonésiennes qui voient arriver du tissu qu'on essaye de leur vendre et qui disent mais c'est très très mauvaise qualité cette chose-là, ce loba.
Oui. Et pour revenir aussi sur ce contexte de la fin du 19e siècle, je trouve qu'il est vraiment intéressant de comparer dans cet enjeu commercial aux indiennes. Parce que ces indiennes, ces imprimés qui sont, on va dire, qui vont arriver en Europe au XVIe siècle, quand l'Occident découvre ces imprimés et est séduit par ces imprimés, il décide également, de mécaniser c'est l'impression de cette technique artisanale des Indes. Et donc avec le wax on est aussi dans, dans le même processus. Donc il faut replacer, la création du batik industriel, du wax, de la mécanisation du batik traditionnel, dans ce contexte où l'Europe s'empare, découvre, on peut dire les choses, des textiles d'ailleurs, et décide de mécaniser toutes ces techniques qu'ils découvrent. Donc on est quand même dans ce contexte aussi de rivalité, d'empires coloniaux.
Avec aussi cette question des techniques assez pertinentes, de mettre en parallèle l'histoire du wax et l'histoire des indiennes, ces toiles imprimées, parce que ce n'est pas la même technique. Hein. On a réalisé dans le cours de l'histoire une émission consacrée aux indiennes qu'on peut retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. L'indienne, c'est vraiment, on va dire, une impression, un tampon, alors que avec le wax, il y a ce procédé de cire qui est quelque chose de différent. Et puis la mécanisation apporte des choses. La javanaise, vous nous le disiez, Marie Merlin, c'est le nom de cette machine que les Hollandais mettent en place pour fabriquer du wax. Ils apportent, alors, non pas des innovations, parce que c'est très dur d'innover à partir d'appropriations culturelles, c'est pas tellement l'idée, c'est qu'ils veulent fabriquer quelque chose de nouveau avec des qualités d'impression des deux côtés.
Oui, tout à fait. Exactement. Pour le avec la javanaise, oui, c'est imiter. Il faut imiter la technique du batik indonésien.
Mais l'impression des deux côtés, ça, c'est quelque chose qui vient particulièrement de la fabrication par les Européens.
Alors, des deux côtés. Alors, à l'origine, le batik, indonésien. Et des deux côtés.
Déjà, oui, voilà, de manière traditionnelle. Déjà des deux côtés, d'accord.
Il est déjà des deux côtés. Donc, on veut vraiment imiter, on veut imiter cette technique, mais d'une manière, moderne, avec des machines, dont la fameuse javanaise brevetée en 1954 par le Belge Prévinaire.
Donc, ça ne plaît pas. Enfin, pour les populations indonésiennes, ça ne plaît pas, ce n'est pas de qualité suffisante. Comment se passe le transfert vers l'Afrique? C'est-à-dire que ces commerçants hollandais, se rendant compte que le marché n'est pas ouvert en Indonésie pour eux, décident de regarder vers l'Afrique et d'écouler ici leurs produits, parce qu'il y a du stock, puis c'est toujours, il faut le rappeler, du commerce, cette histoire de colonisation.
Oui, à la fin du 19e siècle, en fait, il va se mettre en place différents, éléments qui vont permettre à ce textile d'être accepté, il faut dire les choses comme elles sont, par les Africains. Donc, il y a, bien sûr, la mécanisation, il y a les empires coloniaux, et puis il y a une figure très importante, c'est celle d'un homme, Ebenezer Brown Fleming.
Qui est-il ?
Un marchand écossais. Et ce marchand écossais a joué vraiment un rôle clé dans l'adoption du wax, du batik industriel en Afrique. Il a créé des motifs qui vont s'inspirer dans un premier temps des batiks indonésiens, des royaumes africains locaux, de l'Égypte ancienne, de la calligraphie arabe. Et il va créer ces motifs entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle.
C'est-à-dire que notre histoire, c'est une histoire de technique, bien sûr, une histoire de commerce, ça, on l'a bien compris. Puis ça y est, on rajoute encore des éléments parce que maintenant, on va faire un petit tour du côté de l'Écosse. Et une histoire de motifs, c'est très important d'évoquer ces motifs-là. Dans un premier temps, la reproduction est celle de motifs qui sont traditionnellement utilisés en Indonésie et d'autres sont ajoutés, notamment à destination de l'Afrique. C'est ça, c'est qu'il y a une recherche du goût africain pour toujours écouler ces marchandises.
Je ne sais pas s'il y a une recherche de ce goût. Il y a effectivement ce personnage emblématique, Ebenezer Brown Fleming, qui a réalisé différents motifs, qui s'est inspiré des éléments du batik indonésien, mais pas que. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans la naissance des motifs et de cette richesse iconographique du wax tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est qu'il y a des motifs qui sont très anciens. L'un des plus anciens connus d'Ebenezer Brown Fleming date de 1800. 1895. Il s'appelle La Main. Enfin, il a été appelé La Main. Ça, c'est une autre histoire sur laquelle je pense on va revenir. Un autre qui est également emblématique s'appelle Alphabet. Il a été dessiné par ce marchand écossais en 1902. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir qu'il y a un fond d'archives aussi de motifs et de dessins. Donc le wax est à la fois une technique, un savoir-faire, une transposition industrielle voilà, d'un procédé artisanal, mais c'est aussi une créativité, une richesse iconographique, un fond iconographique très, très multiculturel d'une certaine manière, dès son origine. Et ces motifs sont aujourd'hui toujours réédités. Et c'est pour ça qu'on peut parler, qu'on parlera dans l'exposition aussi, parce qu'on va en présenter quelques-uns bien sûr, du wax comme un patrimoine iconographique. Et donc ces motifs qui, pour les premiers, sont donc très anciens, fin du 19e, début du 20e, sont encore portés aujourd'hui et peuvent coexister, cohabiter avec des productions graphiques qui sont bien plus récentes. Voilà, donc on a aussi toute cette histoire-là sur tout ce siècle qui est une histoire graphique, iconographique. Le procédé dont on a pu parler a permis aussi que ce tissu soit reconnaissable entre tous du fait de ses couleurs qui sont extrêmement vives, variées, chatoyantes, très contrastées. Voilà, donc il y a tout ce patrimoine graphique et colorimétrique qui a fait aussi le succès du wax.
C'est quoi cette histoire de main ?
La main, c'est un dessin donc de Ebenezer Brown Fleming sur lequel on peut voir une main percée de quelques trous dont on pense que ce sont peut-être des shillings et autour de laquelle il y a des doigts qui eux sont sont seuls et ce motif a été nommé, renommé, réinterprété justement par la main ou par un dialecte proverbe qui dit l'union fait la force.
D'accord, c'est-à-dire qu'il y a la interprétation derrière du motif avec la richesse de ces motifs qui sont créés. C'est toujours très étonnant, très loin de là où ensuite ces tissus sont diffusés.
Alors, justement, pour revenir à Ebenezer Brown Fleming, il y a un ouvrage alors qui vient de sortir. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est de la recherche. On est dans le monde de la recherche et que on découvre de nouvelles choses, et notamment un ouvrage que j'ai eu l'occasion juste hier, voilà, je l'ai eu entre les mains, qui est écrit par Hélène Elands. Alors Elands, E-L-A-N-D-S.
Non, il faut être bien de le dire.
Voilà, alors qui est historienne de l'art, et donc elle s'est intéressée justement au dessin, aux 250 modèles qui ont été produits, enregistrés, entre 1895 et 1912. Parce que Ebenezer Brown Fleming est mort en 1912. Et elle avait de nouvelles recherches. Et ces recherches vont s'appuyer, se sont appuyées sur les archives néerlandaises, anglaises et suisses, qui ont permis de reconstituer, et ça c'est pour nous vraiment super intéressant pour notre exposition, reconstituer les premières collections, mais aussi de donner une évolution, un aperçu de ce wax hollandais. Et le plus passionnant, c'est la découverte d'échantillons des premiers wax en parfait état. Et dans cet ouvrage, on voit ces échantillons, et surtout, on voit également des photos d'Africains qui sont donc sur la Côte de l'Or, qui est l'actuel Ghana, portant ces wax. Donc on est à la fin du 19e et au début de 1900. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, pour voir comment la réception, quelque part, parce qu'on essaie de comprendre comment cet ancrage s'est fait en terre africaine, la réception par les populations sur place.
Les échantillons dont vous parlez, Solobadiakité, sont conservés En Europe, c'est ici qu'ils sont fabriqués, enfin qu'ils sont imaginés, qu'ils sont fabriqués. Au même moment d'ailleurs, on sait bien que c'est en Angleterre, et pas loin de Londres, que sont imaginés les motifs des tartans écossais. Donc le motif écossais est fabriqué à ce moment-là. Donc c'est ça, hein, c'est ce va-et-vient sans cesse entre les différents continents d'influence culturelle, de décision, et puis après de diffusion. Marie Merlin, oui, vous vouliez dire.
Oui, à ce sujet, l'exposition présente quelques-uns de ces échantillons de tissus produits en Angleterre, à Manchester notamment, pour le marché nigérian, qui date du début du XXe siècle, et également des batiks industriels fabriqués en Suisse. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir les voir, qui sont dans un très bon état de conservation, et de pouvoir voir que, dès ce moment-là, les couleurs dont je parlais, les motifs, sont très voilà, à la fois joyeux, dessinés et très emblématiques.
Oui, parce qu'il y a cette idée-là, hein, vraiment, d'associer ce tissu, le wax, au motif, souvent géométrique, à la couleur, à l'Afrique. Soloba Diakité, je profite de vous avoir parce que nous parlons du wax, ce tissu venu d'Indonésie, passé par la Hollande, avec des motifs qui sont nés en Grande-Bretagne, et puis après que l'on va retrouver partout en Afrique. Mais les tissus d'Afrique existent déjà. On peut parler de ces tissus traditionnels d'Afrique. Hein. En Afrique, les Africains, les Africaines, et dans la diversité culturelle, parce qu'on utilise un mot pour le continent, ils
n'ont
pas attendu l'arrivée du wax.
Hein.
Et des velours du Kassai à temps de création. Non, mais il faut quand même le souligner.
Oui, et justement, comme le dit Marie, dans l'exposition, vraiment, c'était une volonté. C'était une volonté de présenter une carte présentant ces textiles traditionnels. Donc, que les Africains n'étaient pas tout nus.
Bah oui, voilà, non, mais c'est important de le dire. Avec déjà des motifs, et on retrouve ces motifs géométriques qu'on va ensuite également retrouver dans le wax. Hein. C'est, au moment d'inventer le motif, on a un regard porté sur ce qui est fabriqué de manière traditionnelle en Afrique.
Alors, justement, là, vous évoquez les motifs, hein, c'est ça, traditionnels, qu'on va retrouver sur le wax. Hein. Par exemple, effectivement, dans cet ouvrage, à un moment, on voit un batik industriel fin 19e, et on retrouve ces épées cérémonielles Ashanti, qui ont été repris très tôt, hein, pour plaire aux populations. Donc on va puiser dans le répertoire iconographique traditionnel pour justement que l'offre puisse correspondre à la cible. On est dans du commercial. Vendre.
Et puis on est sur un moment de transfert culturel où les colons reviennent, apportant avec eux des souvenirs de voyage, et notamment de l'art. Ça peut inspirer ça aussi pour essayer de comprendre comment, en Europe, sont mis en place ces différents éléments qui servent de motif pour le wax. Le rapport aux colons. Eh ben, écoutez, nous allons écouter Rochereau, parce qu'il faut toujours un peu de rumba congolaise pour passer une bonne journée.
Gai Sofina Lembina Mituna Yabaninga Bakosa Lanya Sofana Bebao Gai Mwana Yasuka Nalibumu Ya Mama. Mon mari est capable à koluka kosala nyonso po bosuka. Mon mari est capable, c'est qu'elle est à molato nanga na bomengo nanga. Ngai Sofina lembi na mituna ya baninga. Bakosala nyonso po na bebao. Ngai mwana ya suka na libumu ya mama. Mon mari est capable akoluka kosala nyonso po bosuka. Mon mari est capable, c'est qu'elle est ya molato nanga na bomengo nanga. Eloko nini ebima na kisasa na suaki te botuna na yo. Nalingaka ye onyoso na swaga. Natongi na pona sasa motoba baninga baka mwinenge na zwaka zela ya poto e koma kisasa na matete kula nyosonga na kendaka mombali na kapoka momari ya kapable nyosonga zwaka.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Mon mari est capable. C'est Rochereau qui nous conduit en République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec la rumba congolaise. Et comme je disais, il faudrait tous les jours, de manière obligatoire, débuter la journée avec de la rumba congolaise. Mon mari est capable, c'est le nom aussi donné à un motif de wax, hein, porté par les brodeuses au Bénin. Soloma Diakité. Donc, nous voyons bien, hein, comment s'écrit cette histoire-là. Depuis l'Indonésie, les Hollandais récupèrent ce motif, n'arrive pas à le vendre en Indonésie, et puis, en passant par l'Angleterre, c'est le marché africain qui est visé. Avec l'adaptation de ces motifs, faut les adapter pour plaire au public. Comment ça se construit cette histoire-là? Parce que parler de l'Afrique comme d'un tout, c'est une erreur grossière. Donc il y a les colonies britanniques d'Afrique, les colonies françaises aussi. Où va-t-on trouver le wax?
Alors, le wax, donc la porte d'entrée, le Ghana actuel. Et à partir du Ghana, effectivement, il y a, bien sûr, là, on va évoquer rapidement les figures des Nanavens.
Ah oui, alors là, ce sont des figures exceptionnelles. Le Benz, hein, parce qu'il faut le dire tout de suite, ce sont les Mercedes-Benz. Et cette fois-ci, c'est l'Allemagne qui entre dans cette longue histoire. Qui sont-elles?
Alors, ce sont des femmes togolaises. Donc des Togolaises, hein, qui vivent à Lomé et qui vont s'approvisionner dans les années 50, hein, déjà, hein, à Accra, hein, sur les marchés de ces textiles. Et elles vont donc les ramener au Togo. Et à partir de là, eh bien, elles vont commencer à monter, on va dire, un véritable empire. Des empires, puisqu'elles vont fournir la Côte d'Ivoire, bien sûr la sous-région, mais jusqu'à l'Afrique centrale.
C'est-à-dire que nous avons des femmes d'affaires ici, du Togo, qui, par les contacts, arrivent à diffuser le wax dans l'ensemble de l'Afrique. Est-ce qu'on peut évoquer, avec ces figures de Nanavens, donc Nanavens parce qu'elles s'enrichissent et elles ont des Mercedes-Benz, hein, tout simplement, vecteurs de transmission du wax. Et dans les deux sens, hein, les produits fabriqués, venus d'Europe, sont diffusés à travers ces Nanavens, et dans le même temps, elles peuvent remonter les informations pour dire, ben, voilà comment on aimerait adapter les motifs.
Exactement, puisqu'elles vont être associées. C'est-à-dire que, alors, on n'a pas parlé de Vlisco, hein, mais Vlisco, hein, qui, on va dire, le wax, c'est le wax hollandais, on va dire, luxueux, tel qu'on peut le définir. Et donc, Vlisco va comprendre, hein, qu'il est important, tout comme Ebenezer Brown Fleming, eh bien, que le textile soit adapté au goût, bien, de ceux qui vont le porter. Et donc, elles vont être associées. Parfois, effectivement, à la création de textiles. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour le wax hollandais, qui est défini dans les usines à Helmond avec un numéro d'inventaire, eh bien, c'est là que va se faire, la touche africaine. Elles vont les nommer.
Ah, donc les noms donnés à ces tissus. Sur l'évocation de ces Nanavens, ces personnages extraordinaires, Marie Merlin, elle joue vraiment ce rôle de vecteur. Sans elle, il n'y a pas cette histoire-là. Et des femmes, en plus, c'est très intéressant de voir ça, hein, ces femmes d'affaires.
Oui, on parlait tout à l'heure de patrimoine iconographique avec les motifs effectivement dessinés notamment par Vlisco. Et là, le wax prend une autre tournure, c'est-à-dire que les Nanavens vont faire de ce tissu un véritable matrimoine. Elles vont être, Vlisco est donc un acteur incontournable, hein, dans la production du wax, et les Nanavens vont devenir des partenaires aussi de Vlisco. Certaines d'entre elles vont avoir des motifs qu'elles vont être les seules à pouvoir vendre sur les marchés. Donc il y a aussi cette à la fois cette concurrence aussi commerciale entre ces femmes, et qui vont monter elles-mêmes un véritable empire de distribution et de commercialisation des produits, et de faire aussi par le fait de nommer les tissus, de faire des lieux de vente que sont les marchés, les boutiques, les étals, aussi des véritables lieux de vie autour du tissu, de partage, de discussion. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très sensible dans ce rapport au tissu.
Vlisco, c'est cette grande entreprise néerlandaise de fabrication d'étoffes. La fabrication se fait en Europe. Elle ne se fait pas en Afrique. C'est important de le rappeler.
Quand même une petite... parce que quand même, il y a les indépendances. Les indépendances avec les pays maintenant souverains qui décident d'avoir aussi leur production, et d'avoir leurs usines. Donc il y a des usines qui vont être créées, par exemple surtout fondées dans les pays. On peut citer la SICAM, qui a été fondée en 65. Alors la SICAM, c'est quoi? C'est la cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, qui a été fondée en 65. Donc elle a été créée dans le but de devenir un pilier de l'industrie textile en Afrique centrale, juste après les indépendances. Donc il est vrai que beaucoup de ces industries africaines qui ont été créées ensuite avec la concurrence ont fermé leurs portes. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on parle de la Sotiba Saint-Pafrique.
Oui, on met en avant la Sotiba Saint-Pafrique, qui est une unité de production de wax au Sénégal, à Dakar, qui a vraiment connu aussi ses heures de gloire durant toute cette âge d'or du pagne imprimé, entre effectivement le moment des indépendances et la fin des années 90, où là, les choses vont aussi changer, le vent va tourner aussi d'un point de vue commercial. Et donc on a la chance de pouvoir présenter un rouleau de cuivre qui faisait partie d'une unité de production de la Sotiba Saint-Pafrique, qui était aussi un moment, et aussi un moment de fierté au Sénégal, de pouvoir avoir cette production sur le sol national.
Avec ces figures extraordinaires, celle des Nana Benz.
Je revenais du boulot un midi, très bien sapé, une cravate, une veste, et je cherchais un taxi. Brusquement, je vois une femme qui s'arrête devant moi et qui m'invite à monter à bord de la voiture pour me déposer chez moi. Je monte tout naturellement. Je me suis aperçu qu'elle vit seule, sans mari, avec ses enfants, dans une grande villa. Mais j'ai compris après qu'elle voulait être autoritaire. Elle me filait certes de l'argent, mais elle voulait que je sois chez elle tous les jours. Ce qui a commencé par m'agacer, étant entendu que moi j'ai une petite amie que je ne voulais pas laisser tomber. La femme doit être dans la quarantaine. J'approchais la trentaine à l'époque. Elle est vendeuse de pagne, elle voyage beaucoup sur le Congo, le Zaïre. Elle va souvent aussi aux États-Unis, elle prétend avoir des fournisseurs là, mais je sais que ce sont des amants qu'elle a là. C'est le prototype même de la Nana Benz au Togo, ça, que j'ai rencontré.
Nous étions au Togo en 1990 dans un reportage télévisé consacré à ces Nana Benz qui voyagent beaucoup. Ça, c'est toujours vraiment intéressant, parce que depuis le début de cette émission consacrée au wax, de ce tissu qui connaît un destin absolument extraordinaire, on voit bien que nous voyageons beaucoup. Donc ces Nana Benz, elles traversent les frontières.
Elles traversent les frontières, elles vont également en Europe, bien sûr. Elles sont dans la sous-région, bien sûr, elles voyagent en Afrique, mais elles vont aussi en Europe. Jusqu'à maintenant, des femmes qui commercialisent le wax ici à Paris, ou sur le continent, elles continuent à voyager. Et donc, pour revenir donc sur ces figures des Nana Benz, on a, avec Marie, on a beaucoup travaillé sur... sur ces portraits, et il y a des portraits très intéressants. Donc il y a une Anna Benz, hein, on peut citer quelques noms, hein, Dédé Rose Crépy, hein, qui est morte en 2023. Et comme le disait Marie, effectivement, elles vont avoir parfois l'exclusivité de certains motifs.
Yves Lisco va leur rendre hommage en créant aussi un motif spécifique qui s'appelle Mama Benz, qui est donc un motif qui sort des usines Yves Lisco et qui est dessiné en 2009.
Dédé Rose Crépy, c'est une Anna Benz togolaise, parce qu'on voit bien le Togo ici, c'est important. Dans cette histoire-là, il y a des portes d'entrée, vous avez évoqué le Ghana, Soloba Diakité, on a le Togo, on a toute l'Afrique, il y a des spécificités dans les goûts. Est-ce que c'est possible d'essayer de voir cela, ou c'est quelque chose de réellement panafricain, ce goût du wax, et que ça peut s'échanger sans problème?
Alors, panafricain, oui. Alors ensuite, quand même, dans le wax, hein, il y a par exemple ce qu'on appelle le super wax. Alors le super wax créé par Blisco en 1973, hein, il est beaucoup apprécié en Afrique centrale. Et par exemple, pour revenir au Togo, alors je ne parle pas le mina ou l'évé, hein.
C'est-à-dire.
Alors le mina, il est, c'est une langue.
Voilà, hein, les langues.
Voilà.
Mais parce qu'il faut parler les langues pour maîtriser
non,
le wax.
Non, c'est parce que, alors, on a parlé de Anna Benz qui ont, comment dire, des textes, comment dire, qui ont donné des noms.
Oui, hein. D'accord.
Voilà, je reviens à ça. Et par exemple, pour revenir à Rose Crépy, par exemple, il y en a un, c'est Deku. Des coups qui veut dire graines de palme. Donc il y a ou Adema, c'est un motif avec des feuilles, et donc là c'est en rapport avec un plat togolais. Donc il y a pas mal de pagnes qui sont appréciées, on va dire, à Lomé, et ouais, qui ont des noms en lien avec de la nourriture, à donc point. Voilà, je parle très très mal, alors pardon pour ceux qui m'entendent.
Mais moi je vous pardonne ce problème, parce que vous nous faites ici ce panorama des noms de tissus qui se poursuit dans cette archive.
Ils ont tous leur nom et leur motif.
Ah, ils ont un nom ?
Ils ont tous des noms de tissus, plus ou moins.
C'est quoi par exemple les noms ?
Bon, ça c'est Fleur des Paradis, c'est le super wax. Si vous avez Ascaris, là vous avez Rugby. Tiens, vous avez cravate de Chirac. Ici, vous avez nœud.
Cravate de Chirac.
Oui, vous avez 150 ans. C'est leur anniversaire quand ils ont fêté. Ça fait 150 ans qu'ils existent. Pour maintenant, ça fait un peu plus. Ça fait 156 ans. Et puis, voilà, vous avez plusieurs noms, plusieurs modèles. Et là, vous avez des wax hollandais. Vous avez Génito. Vous avez millionnaire sous forme des billets. Vous avez Bassam, c'est une province de la Côte d'Ivoire. Vous avez ici Goudron de Yamoussoukro, c'est une trottoir. Ici, vous avez Jean-Jean. Et là, vous avez Conseiller. Vous avez ici High Life, Longue Vie. Et voilà. Nous avons des gens qui peuvent venir d'Afrique. On me demande, j'y vais, mon mari est capable. Donc, nous, on est censé les trouver. Donc, juste les couleurs et les noms à donner, c'est tout. Donc, chaque vendeur d'épargne ou commerçant, il est censé de savoir les noms.
Je peux vous conseiller, madame?
Oui. Ça peut être les rapports avec les formes de dessins, hein, les noms. Hein. Demandez à une personne âgée, à une personne de 90 ans, 95 ans, ils sauront vous expliquer.
Mais ce sont des noms donc très anciens alors?
Très anciens, oui, la plupart. Oui. Très très anciens. Sinon, pour les boubous, je ne suis pas spécialiste.
Sur France Culture en 2004, les noms de ces différents tissus avec le panafricanisme. Au moment des indépendances, on l'a évoqué, hein, ce grand mouvement qui est très long, hein, faudrait pas réduire ça aux années 1950-1960, long mouvement de l'indépendance, mais au moment des indépendances africaines, c'est vrai que le wax prend un symbole particulier, hein. C'est vraiment passionnant de voir comment il est lié à l'identification des Africains et des Africaines. C'est affirmé, le wax devient le motif pour affirmer son identité africaine.
Si je peux me permettre. Hein. En fait, effectivement, alors, il y a un motif en particulier qu'on appelle Addis Abeba ou Yamado. Yamado, là, on est en Afrique centrale, Suzanne Yamado, ou vraiment Addis Abeba, qui s'inspire d'un motif brodé, qu'on trouve en Éthiopie. Donc c'est vrai que au-delà de l'Afrique, ce motif il est adopté aux États-Unis. Vous voyez, donc pour revendiquer un peu ses origines africaines, américaines. Mais au moment des indépendances, bon, il y a 1960 où la majorité des pays africains prennent leur indépendance, mais 1957, le Ghana prend son indépendance. Et quand Kwame Nkrumah fait son discours, il ne porte pas de wax. Il porte ce qu'on appelle, un tissu qu'on appelle Batakali. Batakali plus au Togo. Cette tunique qu'on appelle Agbada. Donc, il ne porte pas de wax. Et ça, c'est intéressant.
C'est pas le wax, en fait, qui est mis en avant obligatoirement.
Un milieu, il faut dire, attendez, Kwame Nkrumah, c'est le père du panafricanisme. Donc, quelque part, ce qu'il veut mettre en avant, ce sont cette souveraineté de nous, peuple africain. Donc, on ne va pas se référer à un textile qui a quand même cet héritage colonial, qui a été construit dans un contexte colonial. Il ne faut pas l'oublier.
C'est très important. C'est un tissu colonial, le wax, à la base, par sa fabrication. Alors, on l'a bien entendu, hein, dans un premier temps en Europe, des usines s'ouvrent ensuite en Afrique, et puis les motifs sont nés en Europe, et puis après, par les Nana Vance, ils sont évoqués, mais ça reste un tissu colonial. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si ce tissu-là est porté par les élites en affirmation d'une fierté africaine, ou bien est-ce que l'on va trouver des élites qui vont conserver particulièrement des vêtements occidentaux ? Est-ce que le wax, c'est un tissu populaire, pour le dire autrement ?
Je pense que ça dépend aussi du moment historique auquel on se situe. Par exemple, au moment de l'introduction du wax sur le continent africain, comme beaucoup d'autres produits manufacturés qui venant d'Europe, il est cher. Donc il n'est aussi accessible que à des élites locales. Et là, tout le monde ne peut pas forcément s'acheter des pagnes et des coupons. C'est une première chose. Et au fur et à mesure aussi de la démocratisation d'une certaine manière du wax, c'est là où on va avoir arrivé dans les années 60 cette sorte d'effervescence et de diffusion effectivement du wax dont par exemple les photographies de Seydou Keïta et de Malik Sidibé rendent très bien compte, parce qu'on voit à quel point le wax n'est pas le sujet des photographies de Seydou Keïta ni de celles de Malik Sidibé, mais en les regardant, on ne peut pas ne pas réaliser à quel point le wax est omniprésent, car tous les sujets qu'il portraitise sont vêtus de wax, et on retrouve les motifs dont on vient de parler, et il s'en sert également en toile de fond. Ce sont des sortes de clins d'œil aussi, et qui permettent de montrer à quel point le wax, à ce moment-là, c'est popularisé, et que peut-être c'est aussi cette popularité qui fait que des élites politiques aussi, qui ont aussi ce souci de revendication de leur identité et de leur identité culturelle, elles n'ont pas souhaité, justement à ce moment-là, se vêtir de wax comme pour représenter leur nation et leur nation au moment de leur indépendance. Donc le wax aussi connaît, réservé aux élites ou populaire aussi selon les différentes époques où il est porté. Et on peut aussi parler, parce qu'on dit wax, mais un wax peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'on a parlé au tout début de l'émission des modalités d'impression, de techniques. Il y a des gammes dans le wax. Soloba a tout à l'heure parlé de super wax. Là, c'est une gamme supérieure de production de textile où, je vais pas rentrer forcément dans tous les détails, mais on n'est plus sur deux couleurs, mais sur trois. Enfin, voilà, ce qui fait que le super wax est plus cher que le wax. Mais on a également des gammes de ce qu'on va appeler le fancy, qui lui va reprendre la gamme de couleurs, de motifs, de dessins du wax, mais en étant uniquement imprimé, c'est-à-dire que là, on n'est plus en fait sur du wax en termes de procédé, mais on va être sur du wax en termes de motifs, de couleurs, d'impression. Et donc, en fait, c'est la diversité de ces gammes fait que on peut pas dire qu'il est populaire ou pas, c'est-à-dire que c'est selon aussi le moment où il est porté, l'événement dans lequel il est porté, que ce n'est pas le même coupon ou la même qualité de textile qui va être acheté par l'individu. Si c'est pour s'habiller tous les jours, voilà, ça va être telle ou telle gamme de tissus. Si c'est pour se rendre à un mariage, si c'est pour célébrer une naissance, si c'est pour se rendre à des funérailles, là, effectivement, dans ces moments-là, ce sera des wax de qualité bien plus supérieure.
Et puis, selon les lieux aussi, hein, mais c'est vrai, de mettre en place cette complexité, Marie-Merlin, vous avez raison, parce que on dit le wax, c'est un tissu, et puis une fois qu'on a dit tissu, on n'a pas tout dit, parce qu'après, il faut savoir comment il est porté.
Oh, ces négresses que l'on rencontre dans les environs du village nègre, chez les trafiquants qui honnent le percale de traite. Aucune femme au monde ne possède cette distinction, cette noblesse, cette démarche, cette allure, ce port, cette élégance, cette nonchalance, ce raffinement, cette propreté, cette hygiène, cette santé, cet optimisme, cette inconscience, cette jeunesse, ce goût. Elle s'habille de boubous de différentes longueurs, qu'elle porte les uns par-dessus les autres. Ils sont tous d'impressions de couleurs et de broderies variées. Elles arrivent à composer un ensemble inouï d'un goût très sûr, où l'orangé, le bleu, l'or ou le blanc dominent. Elles portent aussi des ceintures et de lourds gris-gris, d'autres plusieurs turbans célestes. Leur bien le plus précieux est leur dentition impeccable et qu'elles astiquent comme on entretient les cuivres d'un yacht de luxe. Leur démarche tient également d'un fin voilier, mais rien ne peut dire les proportions souples de leur corps ou exprimer la nonchalance réfléchie de leur allure.
Les boubous de Blaise Sandrars, une lecture de Juliette Atonkoumou Alima dans le cours de l'histoire sur France Culture, le cours de l'histoire qui aujourd'hui s'intéresse au wax. On l'a bien dit, c'est un tissu, le wax. Nous avons une pièce de tissu, mais dès lors, on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on pourrait en faire un tissu et un costume occidental. On pourrait l'utiliser en pagne. Là, on évoquait avec Blaise Sandrars les boubous. Comment le wax est-il porté? Comment il est coupé?
Alors, comment il est porté? Alors, Marie, effectivement, a évoqué bien des circonstances. Hein. Bien sûr, le wax que je vais mettre pour aller faire mes courses ne sera pas le même que je vais porter à un mariage. Et d'ailleurs, il y aura toute une séquence consacrée au port du wax dans différentes circonstances, familiales, funérailles, religieux, etc. Et justement, on va présenter des photos d'une artiste qui s'appelle Krissima Poba, hein, qui est photographe, où on voit le port du wax, par exemple, à un mariage. Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que sur cette photo, Krissima se représente avec sa grand-mère et elle explique que c'est un super wax qui a été choisi par sa grand-mère et la mariée. Hein. Et il y a deux tons. Les anciens vont porter le jaune, si je me rappelle bien, et les jeunes vont porter le bleu. Et le motif, figurez-vous, c'est une bague.
Lié au mariage. L'événement est important. Le wax, mais il se porte comment? Dans ce cas-là, pour un mariage, c'est un pagne. C'est... Alors, pas pour le mariage.
Ah, pour le mariage. Alors, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne, on va se confectionner une tenue. Hein, et la tenue, ça peut être on va dire une robe. Dans un modèle on va dire européen, ou encore ce qu'on appelle le trois pagnes, la tunique, le pagne soit cousu en jupe ou soit vraiment le pagne drapé autour de la taille, le troisième pagne qu'on va remettre sur l'ensemble et puis le foulard. Mais voilà, c'est le pagne uniforme de la famille et on va identifier la famille du marié qui va choisir son pagne et ses motifs et le motif et la couleur de la pagne, du pagne de choisi par la mariée.
Oui, parce que c'est vraiment cela, la force du wax hein, que l'on évoque, c'est que c'est une pièce de tissu avec un nombre de motifs, je ne sais même pas si c'est calculable tellement il y en a, très coloré, et donc à partir de là, tout est possible. Et comme vous le disiez, Marie Merlin, bah, selon les lieux, selon les événements, selon les attentes, selon bah, l'argent dont on dispose aussi.
Oui, c'est un tissu et qui devient un vêtement. Et en fait, il devient un vêtement aussi grâce à une personne qui joue un rôle central aussi dans cette histoire, qui est la couturière ou le couturier. Et donc, il y a quelque part, il n'y a pas de wax, il n'y a pas de coupon, il n'y a pas de lieu d'achat de coupons sans qu'il y ait un couturier, une couturière. Et la créativité aussi de l'individu qui souhaite se vêtir ou porter le tissu de telle ou telle manière. Moi, je pense que, enfin, c'est ce que j'ai aussi découvert hein, en découvrant cette histoire du wax et en y travaillant, c'est que je pense que ça explique aussi sa longévité, c'est-à-dire que ce n'est pas un motif qui est associé à une coupe, qui est associé à une époque. Je pense que c'est très identifiable, effectivement, dans l'extrait sonore, on entendait parler de boubou aujourd'hui, et boubou donc, avec une forme très caractéristique qui est celle du boubou aujourd'hui. Je ne sais pas si une jeune femme de 25-30 ans, vivant à Paris, va porter un boubou. En revanche, elle va porter du wax. Elle pourra porter du wax et le porter d'une autre manière. Donc, du vêtement à la coupe, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et je pense que c'est ça aussi qui a intéressé un certain nombre de stylistes qui se servent du tissu dans leur création, qui vont le revisiter. D'autres vont le dénoncer. On sait qu'un certain nombre de stylistes aussi rejette le wax du fait de son histoire coloniale et d'autres vont justement décider de se le réapproprier parce qu'il est tellement aussi emblématique du continent africain bien qu'il n'en soit pas natif que voilà que c'est qu'il veut aussi devenir une force et dans ce cas-là dans ses créations textiles stylistiques pardon bah effectivement il y a toute une variété toute une gamme et le wax rend vraiment ça possible toujours grâce à ses motifs ces couleurs qui, elles, existent depuis maintenant plus de 120 ans.
Avec toute cette question, au moment des indépendances et encore longtemps après, sur la création venue d'Afrique et ses rapports avec l'héritage colonial, c'est toute cette réflexion que l'on retrouve chez Léopold Sédar Senghor.
Certains critiques ont soutenu la thèse selon laquelle les peintres sénégalais n'auraient fait qu'imiter les grands artistes de l'école de Paris. Cela me rappelle qu'autrefois, quand j'ai commencé de publier mes premiers poèmes, certains critiques disaient que je m'étais inspiré de Saint-John Perse, alors que je n'avais pas encore lu Saint-John Perse, que je m'étais inspiré de tel poème grec ou latin, alors que je reproduisais tout simplement un poème de mon village. Non, les artistes sénégalais expriment, c'est naturel, les artistes sénégalais expriment leurs préoccupations. En somme, les peintres sénégalais d'aujourd'hui, ils sont hantés par leur passé. Même quand ils veulent exprimer des préoccupations actuelles, et ils s'expriment en disant leurs idées, sentiments, en ressuscitant les images archétypes enfouies au fond de leur mémoire, car l'islam nous avait fait renoncer à la sculpture et à la peinture, et nous avions reporté notre sens de la beauté vers le poème, vers la musique et vers la danse.
Léopold Sédar Senghor, en 1974, en journal télévisé, qui s'exprimait alors sur les arts de l'Afrique, bien sûr particulièrement du Sénégal, avec cette histoire de ce tissu colonial, le wax, mais qui devient un tissu africain. Alors, c'est vrai que c'est pas un tissu africain, on est parti d'Indonésie, mais on peut le dire qu'il y a une appropriation par les différents peuples africains de ce tissu.
C'est vraiment ce que l'exposition a voulu montrer, c'est-à-dire que dépassionner aussi le débat autour de peut-être de cette histoire et montrer qu'il y a dans cette histoire il y a une variété aussi de regards, une multiplicité voilà de regards portés sur le tissu et aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que des artistes dans les années 60 ne vont pas se servir du wax de la même manière que aujourd'hui de manière très contemporaine et c'est ça qu'on a souhaité montrer en présentant entend justement des regards différents. Par exemple, on présente une pièce d'Alexis Thémaud-Manin, qui est un styliste né en Côte d'Ivoire, qui revisite avec du wax des premiers motifs de batik indonésien sur du wax créé par Vlisco. Donc il y a aussi des stylistes ou des jeunes stylistes ou artistes qui revisitent aussi leur histoire et qui font de ce tissu colonial un symbole d'appartenance, un héritage qui est partagé, parce que bien que le textile ne soit pas natif du continent africain, il est identifié aussi à l'Afrique. Et donc certains vont s'en servir aussi pour, de manière politique, venir dénoncer un certain nombre d'enjeux. Et donc là, ce n'est plus le wax en lui-même qui est polémique, c'est le fait de se servir du wax comme emblème du continent africain pour dire quelque chose et pour poser un certain nombre de questions liées au phénomène migratoire, liées à l'écologie, liées à la fast fashion, etc. Donc le wax, dans ce cas-là, devient vraiment un vecteur à la fois d'émancipation, d'affirmation d'identité plurielle et hybride, mais aussi un messager pour dénoncer un certain nombre de situations dans un monde aujourd'hui un peu compliqué.
Ah bah oui, je veux dire un peu compliqué. Est-il possible aujourd'hui de trouver, alors en Afrique ou ailleurs, du wax comme les anciens pouvaient en trouver, les Nana Benz pouvaient en vendre il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans? Est-ce que ce wax-là existe toujours? Est-ce que ce wax fabriqué alors par ces grandes entreprises que vous pouviez évoquer, ben c'est toujours celui que l'on trouve dans les magasins?
Donc, effectivement, il y a des motifs qui vont être édités, réédités. Par exemple, je ne sais pas si c'est ce dont vous voulez faire allusion, mais il y a des motifs comme « Mon mari capable » qui sont des motifs iconiques.
Les motifs sont toujours là.
Ils sont toujours là, ensuite déclinés dans différentes couleurs en fonction des goûts.
Mais est-ce que la fabrication est toujours hollandaise ou alors dans des usines africaines? Est-ce que, par exemple, on produit encore du wax en Afrique, tout simplement?
On produit un peu de wax en Afrique, mais de moins en moins, en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'unités de production africaines ont dû fermer leurs portes, notamment du fait de la concurrence des usines de production asiatiques. Et aujourd'hui, donc c'est un peu, en fait, on revient au début de l'histoire. Le wax a été, depuis son origine, un produit commercial au carrefour de ces trois continents. Et au moment où on se parle, c'est toujours le cas, d'une certaine manière, parce que il y a peu d'unités de production aujourd'hui en Afrique. Celles qui existent sont aussi rattachées, peuvent être rattachées à Vlisco. Je pense par exemple à Uniwax en Côte d'Ivoire, qui est une grande manufacture de production locale, avec des designers locaux, mais qui est rattachée, en fait, à Vlisco. Et c'est vrai que la modification des quotas d'importation textile par l'Organisation mondiale du commerce en 2004 a aussi sonné un peu le glas d'une période de production de wax et de fancy sur le continent africain.
Oui, ça vient beaucoup de Chine, j'imagine.
Oui, ça vient beaucoup de Chine, qui a inondé les marchés et qui, en fait, compte a mis à mal aussi le wax hollandais. Et les Nana Benz, hein, puisqu'aujourd'hui, leurs descendantes, qu'on appelle les nanettes.
Ah oui, pas mal.
C'est mignon. Et qui, en fait, continue ce travail. Mais effectivement, il y a cette concurrence qui est là, qui est mise à mal. Les sociétés du pays, mais quand même, il y a aujourd'hui, certains pays veulent justement reprendre la propriété de ces usines. Et je citais tout à l'heure la SICAM 2008. Maintenant, en 2008, la SICAM est désormais, au Cameroun, la propriété de l'État. Hein, elle résultait de la collaboration entre l'État camerounais, la Banque allemande de développement et le groupe textile alsacien DMC. 2008, il redevient camerounais.
Et on a ces retours, ces va-et-vient. Et c'est vrai, comme vous le disiez, Marie Merlin, cette naissance en Indonésie qui traverse le monde, le wax, revient par la Chine où il est aujourd'hui énormément produit, mais il demeure. Mais quoi qu'on en dise, associée à l'Afrique, d'où cette exposition Wax, cette exposition au Musée de l'Homme à Paris, une BD qui l'accompagne, un Wax Paradox de Justine Sault, parce que c'est important aussi la transmission à travers tous les vecteurs possibles pour raconter cette histoire-là, cette histoire de Wax. Merci vivement à toutes les deux, Marie Merlin, Soloba Diakité, d'être venues aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup à vous.
Non, au premier coup d'œil, on dirait c'est rien. Un Européen n'a pas d'accès au boubou et ne sait pas non plus le porter. Mais si on est un peu passionné et on commence à poser des questions, on réalise assez vite que c'est un vêtement riche, plus complexe qu'on pourrait penser et adapté à la géographie, au climat et aux structures sociales.
Un vêtement à l'histoire riche et complexe, et c'est ça qui nous plaît dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Cassandre Puel et Riyad Kerr, avec aujourd'hui la technique Grégory Wallon, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Mayou Nguiziou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.